Paris, Berlin.
Paris, Berlin.
Berlin, Paris.
Photographie.
Musique.
Art.
Artiste.
Vibration.
Cruise.
Cruise time.
Culture. Paris, Berlin. Exposition.
Connexion.
Culture.
Cruise.
Métropole.
Dans ton cruise.
Oh, il est génial, ça va.
Sur 93.9.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris. Cette émission spéciale est animée par les étudiants qui ont suivi un atelier radiophonique proposé par le CRUS de Paris. Nous sommes justement en public dans la résidence du CRUS Concordia. Dans ce très bel endroit a lieu le vernissage d'une exposition qui donne à voir les œuvres des lauréats du concours photographique Paris-Berlin, concours organisé par le CRUS de Paris et la Studentenwerk berlinoise. Vous pourrez quant à vous admirer ces photos sur les murs du resto U de la Halle aux Farines dans le 13e arrondissement. Autour du thème de la vibration, s'entrechoquent les univers visuels de 3 étudiants français et de 3 étudiants allemands. Vous êtes avec nous pendant une heure. Au sommaire, Benjamin, notre chroniqueur historique, introduira cette émission par l'évocation d'une autre photo, montrant une face sombre de la relation artistique franco-allemande. Madeleine et Alia discuteront ensuite avec les artistes présents de leur œuvre. Ils interrogeront aussi M. Denis Albert, directeur du CRUS de Paris, son homologue allemand, Mme Meyer-Tunz, ainsi que Charles-Henri Medieval, organisateur de l'exposition, à propos de cette initiative et les jurés de cette édition quant à leur choix. Nous suivrons Jeanne dans son voyage à Berlin à la rencontre d'artistes et de lieux culturels allemands. Et pour finir, Louisiane proposera à tous les spectateurs et auditeurs un blind test pour évaluer votre culture musicale d'outre-Rhin. Mais d'abord, quelle est à Paris l'image de Berlin, ville avec laquelle le concours Vibration permet de tisser des liens? Tout de suite, réponse avec un micro-trottoir.
La chute du mur de Berlin, ensuite les soirées mainstream, l'électro à Berlin, les grosses soirées, la nouvelle ville de jeunes, la nouvelle ville où il faut aller pour sortir, pour habiter, pour faire ses études.
Là-bas, il y a des bonnes soirées.
La musique, les soirées.
La musique électronique. L'histoire.
Alors je pense à l'Allemagne plutôt, mais aussi en de les grandes villes en Europe. C'est une capitale très grande, très connue. On pense aussi bien à la guerre pour le mur de Berlin. C'est la première chose que je pense. Je pense à la culture.
Quand je pense à Berlin, je pense à la porte de Brandenburg. Je pense à une métropole qui est très internationale, avec des cultures, une ville très dynamique.
À une folie qui n'existe plus peut-être en France. Je trouvais que c'était une ville qui ne ressemblait pas à tout ce qu'on voit maintenant. Il y avait une autre ambiance.
J'adore Berlin parce que justement, je trouve qu'il y a une autre ambiance très décontractée, très relaxe, moins stressée qu'ici par exemple. Les gens sont tranquilles. J'aime ces gens complètement ouverts sur un autre monde. J'aime cette liberté de penser.
Si je vous dis Paris-Berlin, qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Pas grand-chose à vrai dire.
Alors c'était un aperçu des idées communes qu'ont les Français sur cette grande ville de Berlin, où on a retrouvé beaucoup le thème de la culture et de la fête, une image très joyeuse de cette ville. Mais il faut rappeler que c'est aussi une ville dont les relations avec la France ont été marquées par la guerre. Et nous allons donc maintenant remonter dans le passé pour découvrir comment ces deux champs, la culture et la guerre, ont pu se croiser.
Oui, donc merci Anne-Périne. Donc dans le cadre de l'exposition Paris-Berlin Vibration, j'ai décidé de me pencher sur une période plus sombre de l'histoire de ces relations entre ces deux villes, à travers une photographie dont l'auteur nous est inconnu et qui est somme toute assez méconnue du grand public. Cette dernière, elle fut prise en août 1943 à Berlin et elle met en scène devant la porte de Brandebourg, symbole berlinois par excellence, des artistes français très connus de cette époque. On peut y identifier, semble-t-il, de gauche à droite, les chanteurs Loulou Gasté et Raymond Souplex. Un homme que l'on identifie comme étant Charles Trenet. Les chanteuses Lise Gotti et Edith Piaf, l'actrice Viviane Romance et enfin l'acteur Albert Préjean. Ces artistes participent à une tournée promotionnelle organisée par la propagande nazie. Comme l'affirme Cécile Desprairies dans son ouvrage « Sous l'œil de l'occupant », tous ces artistes cautionnent par leur renommée la politique de collaboration. En effet, le mois d'août 1943 est synonyme de multiples défaites pour l'armée allemande, comme l'illustre la conquête de Rome par les Anglo-Américains. Par cette photographie, on peut analyser l'un des procédés qui est classique et qui est vraiment beaucoup utilisé par la propagande d'Achtafel. Plus la situation est grave, plus on parle de légèreté. Cette image, elle nous invite également à nous replonger sur la place de la chanson française deux variétés durant l'occupation allemande. En effet, on peut se demander si le fait de continuer de chanter dans une France sous domination allemande constitue ou non un acte de collaboration. Encore aujourd'hui, cette question reste délicate à traiter pour les historiens, même si l'on sait que l'Allemagne engageait une politique culturelle visant à séduire les Français. Dès 1934, Joseph Goebbels affirme que la domination allemande sur l'Europe doit également reposer sur les arts, et les arts sur toutes leurs formes. Dans cette optique, le ministre de la Propagande entend faire de Paris la capitale du divertissement dans l'Europe occupée, comme illustre la réouverture des cabarets et des music halls parisiens très rapidement. Certains historiens n'hésitent pas à parler d'âge d'or de la vie culturelle française, contrastant avec la vie difficile de la population, symbolisée notamment par le couvre-feu ou encore le rationnement de la nourriture. Comme l'affirme l'écrivaine Ursula Matisse, la chanson de variété s'inscrit dans une continuité qui relie les années noires à l'avant-guerre, même si la position de l'artiste durant l'occupation demeure toujours difficile. À cet égard, on peut essayer d'établir une typologie des comportements adoptés par les artistes français durant l'occupation. Alors, en général, les grandes vedettes de l'époque poursuivent leur carrière, comme Maurice Chevalier, Charles Trenet ou encore Edith Piaf. Cette dernière n'hésite pas à affirmer que son vrai boulot, c'est de chanter quoi qu'il arrive. Des tournées en Allemagne sont également organisées au cours de la guerre, comme l'illustre celle de l'orchestre de Raymond Legrand, accompagné de Souplex, Lise Gotti ou encore Fréhel durant l'année 1942. Pour eux, le show doit continuer indépendamment du contexte politique. D'autres chanteurs se réfugient sur la Côte d'Azur entre l'armistice et l'occupation de la zone libre en 1942, comme Paul Misraki ou Ray Ventura, qui quittent le Midi pour rejoindre le Brésil. Enfin, quelques rares chanteurs de variété participèrent à des actions de résistance, à l'instar de la vedette Joséphine Baker. Dès 1940, cette dernière chante à Marseille pour les blessés de guerre, avant de rejoindre un réseau de résistance en Dordogne pour allier l'Afrique du Nord et les rangs des forces françaises libres. Au final, l'ambivalence reste de mise chez de nombreux artistes, dont les positions ou le comportement évoluent au gré des circonstances. Sartre résume ainsi les contradictions de nombreux esprits. Il dit « Me comprend-on si je dis à la fois que l'occupation était intolérable et que nous nous en accommodions fort bien ?»
Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Et vous, amusez-vous, commodez-vous, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici pas.
Merci Benjamin pour cette belle chronique historique. Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir Monsieur Denis Lambert et Madame Mayer Toons qui ont accepté de répondre à nos questions.
Alors, merci à vous, Petra Maillartung et Denis Lambert, de nous honorer de votre présence ce soir sur Radio Campus Paris. Alors, première question, pourquoi ce concours, Denis Lambert ?
Merci de nous accueillir sur Radio Campus. Ce concours, c'est l'idée commune avec ma collègue Petra Maillartung de faire quelque chose dans le domaine culturel pour les étudiants parisiens et les étudiants berlinois. Cette idée est née il y a 2 ans et nous avons tout de suite pensé que la photographie était un domaine qui se prêtait tout à fait à la communication sur le plan culturel entre les étudiants allemands et les étudiants français. Et ce concours est né, je dirais comme ça, tout naturellement, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, c'est la 2e édition.
D'accord, merci. Et pourquoi ce thème vibration ?
Pourquoi ce thème vibration ? C'est un thème qui a été choisi, je crois, par le jury l'année dernière. Et qui a été choisi aussi par les étudiants. L'an dernier, c'était le thème connexion. Apparemment, le thème vibration a été très... c'était un thème qui était sollicité dans le choix. Sollicité dans le choix et surtout qui a inspiré beaucoup de candidats puisqu'on a vu le résultat au niveau de l'exposition. C'est d'une grande qualité.
Pourquoi Berlin et pas une autre ville dans le cadre de ce concours Paris-Berlin, est-ce que vous aviez des attentes particulières par rapport à ce thème ?
Mais parce que le CRUS de Paris et le Studentenwerk de Berlin, ils sont les partenaires, je crois, depuis 30 ans. Et nous avons un jumelage. Et pour ça, on travaille ensemble. Et on n'a pas de choix. Moi, je suis la directrice de Studentenwerk de Berlin. Et pour ça, on fait quelque chose avec nos villes.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a-t-il eu une coopération avec l'équivalent, donc avec le Studentenwerk berlinois et avec le Crous auparavant, avant ce concours?
Non, on n'a eu pas ça. En ancien temps, on a qu'un échange des étudiants et un échange de personnel. Et bon, et ça répète un peu. Et après, M. Lambert et moi, on a dit qu'on veut faire quelque chose de pratique, quelque chose pour les étudiants peuvent travailler ou les collaborateurs peuvent travailler et pour faire quelque chose de créatif, nouveau.
Est-ce que les concours de photographie étudiants manquent dans le paysage artistique pour avoir décidé de créer ce concours? Pourquoi défendre la création étudiante aujourd'hui?
La création étudiante, c'est très important. Les Crous, sur ce sujet, sont des précurseurs, car nous avons depuis très longtemps des concours nationaux qui reconnaissent les talents étudiants, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine de la nouvelle, dans le domaine de la bande dessinée, dans le domaine de la musique. Et ainsi, on est là pour aider, accompagner les étudiants, faciliter aussi l'émergence de leurs talents par leur diffusion, à la fois dans nos résidences et les restaurants universitaires, mais aussi à l'extérieur. Et c'est tout le sens de ces concours. En même temps, la photographie, nous avons un concours de photos avec Berlin parce que c'est un vecteur, un langage commun, même quand on ne parle pas la langue. Et puis en même temps, c'est une vraie joie pour nous de pouvoir aider ces talents à émerger et puis être connu, notamment par la diffusion d'un livre spécifique pour l'exposition.
J'en profite pour présenter Charles-Henri Ménival, qui est chargé de projet du service culturel au Crous de Paris. Et j'en profite aussi pour vous poser une question, Charles-Henri Ménival. Est-ce que les lauréats sont accompagnés dans leur processus de création après le concours?
Alors déjà, il faut mentionner que l'exposition, c'est déjà un contexte professionnalisant pour les artistes. D'accord. Puisque pour certains, ils n'ont jamais exposé et donc ils sont confrontés à des questions très pratiques sur l'accrochage des œuvres, notamment le format d'impression, la fidélité des couleurs à l'impression, toutes sortes de choses dont les artistes professionnels ont l'habitude, mais que quand on est étudiant amateur, on découvre. Et notamment ce concours a en plus l'avantage d'être un concours international, ce qui fait que les candidats ont une exposition fabriquée à Paris, mais aussi à Berlin, et donc ils ont des interlocuteurs à l'étranger, qui fabriquent une exposition à l'étranger. Donc ça représente pour eux une opportunité et une expérience évidemment très formatrice.
Et alors une question générale à nos trois invités, le thème vibration, qu'est-ce que cela vous évoque à vous?
Alors, quand on a pensé à ce thème, la vibration pour moi, c'était d'abord la vibration sonore. Vous en savez quelque chose puisqu'on est en train d'utiliser nos voix pour produire un son. Et donc, il y avait ce défi aussi de comment représenter le son en photographie. Et donc, je pensais qu'on pouvait s'emparer du sujet comme ça.
Pour moi, c'est quand je pense à Berlin et ou quand je pense à Paris, je pense vibration parce que ce sont les très grandes villes avec beaucoup de c'est très mixte avec beaucoup de gens internationaux et ce sont des grandes villes, les villes qui agrandissent. Et il y a beaucoup de jeunes hommes là-bas. Pour Paris, c'est normal, mais à Berlin, l'Allemagne, c'est une société qui va être vieux et vieux et vieux. Et pour nous, ça, c'est une bonne idée. Hein.
Vibration, c'est le mouvement. C'est le mouvement, c'est une dynamique. C'est la rencontre. C'est la rencontre des cultures. Donc, ça rejoint d'ailleurs le thème de l'an dernier, connexion, vibration. On est sur quelque chose qui amplifie le bruit, qui amplifie le mouvement, qui est aussi symbolique en termes de rencontre des cultures et donc des jeunes, des étudiants. C'est une de mes perceptions.
Et merci beaucoup à vous trois. Et maintenant, une pause musicale avec Molly Gray et son morceau, très beau morceau, Soil. C'était Molly Gru sur Radio Campus Paris. Donc c'est une musicienne, poète, jardinière et compositrice. Paris-Berlin.
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 Sur 93.9 Radio Campus Paris.
Et tout de suite, nous accueillons Jeanne, qui est de retour de Berlin, artiste plasticienne, doctorante à la Sorbonne.
En effet, je suis arrivée hier de Berlin, en voyage au Danemark et en Allemagne, en passant par le Brésil d'ailleurs, à la rencontre d'artistes, d'amis artistes de longue date qui ont différentes actualités et j'avais le souhait d'en parler dans le cadre de l'exposition Paris-Berlin. On y va en avion.
C'est plus pratique.
Alors, de ces récentes rencontres à Berlin, orientées sur l'art du visible et de l'invisible, il s'agit ici de cultures en résistance. Les espaces naturels et urbains sont lieux à partager et à vivre, à construire ensemble nos utopies. Berlin est une ville pleine de vibrations, comme on l'a entendu tout à l'heure, une ville en mouvement et une ville aussi qui, forte de toute son histoire, est également une ville à déconstruire et à reconstruire encore aujourd'hui. Alors pour commencer, j'aimerais vous présenter Jacob Kierkegaard, qui est artiste sonore. Jacob est un artiste danois vivant à Berlin depuis 15 ans. Et de passage à Berlin cette semaine, j'ai pu le rencontrer après avoir été visiter son exposition Inside Out, qui se trouve actuellement au Musée d'art contemporain de Roskilde au Danemark jusqu'au 26 avril. Et l'œuvre de Jacob Kierkegaard se développe à partir de sons que l'on n'entend pas toujours à l'oreille nue. En effet, son exposition rétrospective, Jacob, pour une rétrospective, est un artiste de 39 ans, propose une série d'œuvres à partir de l'oreille humaine et de sons que nos systèmes auditifs peuvent autoproduire. On les appelle les émissions auto-acoustiques spontanées. Les fréquences émises par nos organes auditifs sont parfois perceptibles, parfois non, mais dessinent des cartes sonores de nos propres corps. Aussi, l'œuvre anthropologique Rewind de 2010, laquelle est composée de sons abandonnés, des bandes de cassettes audio que Jacob a pu glaner lors de ses voyages autour de la planète, telles que des bouteilles à la mer. Il les trouve au hasard et il en extrait les messages cachés, les prières, les chants d'amour ou encore ce son du silence glané en plein désert d'Oman. Les portraits sonores de lieux, tels Ion et Stigma, y sont également présentés. Ces deux portraits ont été créés à Tchernobyl en 2006 et à Fukushima l'an dernier, qui était une œuvre du Mori Art Museum de Tokyo. Ensuite, à Berlin, mais juste avant son envol vers le Groenland, Jacob nous parle de ses œuvres et de son rapport modifié avec la nature en milieu radioactif.
Yeah, this was an imitation from the Museum of Contemporary Art in Roskilde, Denmark, to do a retrospective solo exhibition. And a retrospective exhibition for me was a little bit like, wow, am I this old? I mean, I'm only 39, but I thought, wow, why not do a retrospective and just to look back at what I have done, but at the same time also create a new work. It was really interesting for me to think about, like, you know, making status and think, okay, until now I've created this and that. What does it mean? What are the strongest works or what suits an exhibition together? So I got the whole museum and decided to show my major works. For example, I did this work called Ion, where I went to Chernobyl and recorded the resonance of abandoned rooms there. And lately I went to Fukushima to record nature areas in a similar way as I recorded in Chernobyl, to sort of make a sequel to that work, but to really also to study the nature in Fukushima from a perspective of how we as human beings like to understand the nature as something virgin, beautiful, idyllic, peaceful, not dangerous.
C'était Jacob Kierkegaard qui nous parlait de ses œuvres Ion et Stigma, qui sont parmi d'autres présentées lors de son exposition rétrospective au Musée d'art contemporain de Roskilde au Danemark. Et vous pouvez découvrir et écouter son œuvre en ligne à partir du site internet de l'artiste qui est www.fonik.dk. Et pour parler de son œuvre à Tchernobyl et à Fukushima, dans ces places qui sont largement radioactives, encore même presque 30 ans plus tard pour Tchernobyl. En fait, sur ces places qui sont complètement abandonnées, j'avais envie d'orienter ensuite la discussion dans la promenade à Berlin vers ce lieu qui s'appelle Die Wesenburg, dans lequel je me suis rendue à nouveau, un lieu que je connaissais déjà, accompagnée de mon amie peintre Susanna Schniebe. Et j'ai eu la chance de pouvoir retrouver là-bas l'artiste Joe Wesenburg, qui est poète, acteur et infirmier au studio de cinéma de Babelsberg. J'y ai également rencontré le cinéaste et comédien Robert Bittner, tous deux habitants de la ruine Die Wesenburg, qui se trouve au nord de Berlin. Alors, pour un peu d'histoire sur cette ruine actuellement, la ruine Die Wesenburg, qui est donc dans l'ancien Berlin-Est, est une immense ruine, originellement un lieu d'accueil pour les sans-abri, qui a été fondée en 1896 par un cercle de personnes désirant apporter un soutien aux victimes du développement industriel et à la très grande paupérisation d'une partie de ses habitants, donc à la fin du 19e siècle. Ont été construits là-bas différents bâtiments, avec un terrain contenant également un grand jardin. Il y avait des bains, une cantine, des lits en dortoir, des tentes également en extérieur, qui ont ainsi permis l'accueil d'environ 2,4 millions de personnes qui ont pu y trouver refuge entre 1896 et 1933. 1933, date à laquelle le lieu fut réquisitionné par le parti nazi, qui y installa une usine de fabrication de drapeaux, tiens, peints en rouge et noir. Devenue ensuite une fabrique de munitions en 1942, le lieu fut bombardé en 1945 intégralement, à part la grande bâtisse qui aujourd'hui contient une dizaine de logements. Sinon, la ruine, depuis le bombardement, est restée ruine. L'arrière-grand-père de Joe y travaillait comme gardien à sa fondation et la famille de Joe y vit encore aujourd'hui, ayant retrouvé la responsabilité de gardiennage et d'entretien du lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors quand on parle d'entretien du lieu pour une ruine, on peut comprendre que c'est énormément de travail puisque bien sûr il faut tenir les murs en place, murs au sommet desquels on voit aujourd'hui pousser des arbres. Et on peut dire que Die Wiesenburg est un lieu de résistance et l'a toujours été depuis sa fondation, hormis les périodes de la Deuxième Guerre mondiale, un lieu de résistance sociale, artistique et culturelle. Il est donc là-bas tout un immense travail de pouvoir maintenir une ruine en état dans une cité comme Berlin aujourd'hui, où chaque espace est convoité par les promoteurs, où les espaces d'expression se font de plus en plus rares.
We're here in the house. And they leave us the road on the entrance, the parking lots, the greenery.
La ruine aujourd'hui est elle-même peuplée d'une faune dont certaines espèces sont menacées, telles les flottilles de chauves-souris qui vivent dans ces souterrains, ce qui peut être un bon argument pour éviter sa destruction.
In 2 weeks we had to clean out the garden and the ruin. And now we do the wall. So I can show you. Yeah, my most beloved Digibo.
En effet, la ruine Die Wiesenburg aujourd'hui est grandement menacée par le projet de reconstruction sur le terrain par la compagnie de gestion de logements sociaux qui est propriétaire du lieu. Le projet de destruction et de reconstruction n'est pas clairement défini par l'actuel propriétaire, lequel a intimé un préavis de 15 jours pour vider les lieux en ruine.
Das ist jedenfalls sehr komisch hier. Degewo saves historical Meadow Castle.
Das ist ironic.
It's really ironic, yeah.
Yeah.
Le lieu est rare dans ses espaces, dans sa nature, dans sa faune, sa flore.
Now it's longer than 14 days apart that they said we have to clean up. But you see, nothing is happening. It's also a kind of Verdrängung.
We can hear the birds.
Yes. We are on the way to entering the garden. It was formerly the sleeping halls. One sleeping hall has a size of 164 square meters and a capacity of 70 beds. So we had 10 big halls for people to sleep. From 1896 to 1933, before the Nazis took over, for sure.
There's a whole forest in the sleeping rooms.
Yeah, that's in the former sleeping halls, now there's a big forest, a private park.
And there are many animals also, birds, animals living if it's
oh,
a park.
We have the usual birds, like everywhere in the city. We also have mockingbird, we have a rascal, we have ferrets, we have little hedgehogs, lots of cats, and some other animal who passes by, and foxes for sure.
And do you have any bats?
Bats we also do. in the basement. That's the best opportunity what the Digi was doing by closing up also the basement, because it will raise the population of the bats, and if we are lucky, we will have a connection to the BUND, the Bundesumwelt Naturschutz. It will give us the possibility that they don't can build here, because when the population of the bats is higher, so it's savable. But this is a song of future. We will see what will come up. Yeah, the golden hour. It's in the summertime when it's between 6 and 7 in the afternoon. The sun will beam in front above the borderline of the train outside, and then you have a marvelous light in here. We had a marvelous light in here. Yeah, and when the train passes by, it's like sitting inside of a live disco ball, because the change of the light by two windows and the gap between the trains will make a flare of light in here. And shut it off. Flare of light, shut it off. Flare of light, shut it off. That was really nice.
Hello, Robert.
Hi.
Can you tell me what are you doing here? You are living here?
Yeah, I'm living here, and I worked here sometimes. I made 2 movies here. Now, for example, a music video from orchestra miniature in the park, Mrs. Sommer, Fräulein Sommer in German, and it is a one shot without a cut, and we played this one shot in backyards. We filmed it here at Wiesenburg, and won in the last year five film prizes all around the world, in San Francisco, and a TV prize.
Et oui, nous entendions juste à l'instant Robert, qui est cinéaste et comédien, qui vit à la ruine de Wiesenburg, qui est un haut lieu du cinéma allemand, puisque depuis 1928 ont été tournés nombre de films à Berlin, notamment M. le Maudit de Fritz Lang en 1931, Le Tambour de Schlendorf en 1977, Lily Marlène de Fassbinder en 1982, et bien d'autres encore y ont été tournés depuis les années 20. Très récemment encore, donc, le film de Robert, qui parlait à l'instant, un des habitants de Wiesenburg, a été primé dans plusieurs festivals jusqu'à Los Angeles. Aujourd'hui, la communauté d'Wiesenburg se bat contre la destruction de la ruine, contre la destruction totale. Le projet de raser les murs, de raser toute la végétation et une partie de la forêt qui s'y trouve. Désormais cantonnée à la partie d'habitation, les habitants de Wiesenburg habitent maintenant dans la grande bâtisse qui est divisée en appartements où vivent Joe, la famille de Joe, Robert et d'autres de ses habitants. Par ailleurs, des ateliers, un studio d'une chorégraphe, des ateliers de métal, de menuiserie, de peinture, de sculpture, des ateliers de design, dont une partie ont la semaine dernière été partiellement détruite. Menacé aussi le développement des projets culturels, festivals, performances, mariages dans le jardin, jardin qui est en réalité un petit bois, vestige d'une forêt à une époque plus reculée. Et depuis 2006, différents événements ont lieu régulièrement à Wiesenburg. Cet Eldorado, espace en survivance, dont la Golden Hour, l'heure dorée, a pu imprimer les murs du bar de Joe. Le nom du bar du Joe, désormais démantelé, le Priceless Bar, le bar sans prix, fermé la semaine dernière, est tagué aujourd'hui d'une croix ou d'une étoile rouge, comme toutes les portes et les espaces extérieurs de la ruine. Des graffitis rouges en vandalisme officiel, marquant l'interdiction d'entrer à ses propres habitants et à eux-mêmes d'y circuler et d'y œuvrer. Les fantômes du passé, une longue histoire berlinoise, laquelle, souhaitons-le, n'est pas prête de s'arrêter. Ce lieu rare de Wiesenburg a besoin de soutien pour continuer à développer ses activités artistiques, ses projets largement réduits dans sa portion fréquentable, on dira, et pour maintenir ses ateliers de travail, de danse, musique, métal, design, peinture, sculpture, ses espaces du vivre ensemble et veiller à ce que la ruine reste si belle et si créative. Vous pouvez découvrir cet espace en lutte sur la page Facebook du même nom, Die Wiesenburg. Et maintenant, nous passons un petit extrait de la composition de Jakob Kierkegaard, le morceau Gerd, qui est une composition réalisée en Islande auprès des volcans islandais. Merci Jeanne pour cette belle balade. Et maintenant, nous partons à la rencontre d'autres artistes. Certains sont berlinois, certains sont parisiens. En tout cas, ils sont tous les lauréats du concours Vibration, dont c'est ici le vernissage. Quatre d'entre eux sont parmi nous à présent. Marta Djurina, Florian Solin, Paul Lovis Wagner et Xia Qian. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Donc, d'abord, merci de répondre à nos questions. Donc Marta Djurina, Florian Solin, Paul Lovis Wagner et Xia Qian. Alors, tout d'abord, une première question. Jeanne vient de nous raconter son parcours à Berlin. Pouvez-vous nous raconter votre parcours? Pourquoi la photographie? Comment avez-vous commencé?
After this ballade in Berlin that we just heard about with different places and artists, could you, each of us, tell us about your life in Berlin, your places in Berlin?
Hello, I'm Marta Djurina. Thanks for... I'm glad to be here, and I'm a fine arts student in Berlin. So part of my photographic work is or used to be exploring different surfaces of buildings, taking pictures of it, and then bringing it back and sticking it up.
Marta est étudiante en fine art et pratique la photographie, s'intéressant particulièrement aux surfaces des murs, à la peau des purs, des murs, à leur surface, à leur esthétique, à leur consistance.
Bonjour, je suis Paul, aussi de Berlin, et je fais mes études en sciences politiques. À Berlin, il y a... On ne peut même pas commencer avec des endroits particuliers parce qu'il y a tellement des endroits. Mais pour la photographie, les endroits pour la photographie, pour moi, c'est toujours la rue, le vivant et quelquefois la métro. Mais assez souvent, j'ai un peu la peur de photographier dans la métro. Voilà. Mais j'aimerais photographier plus. Bah, il faut avoir un peu plus de courage parce que c'est autant proche. Voilà.
Hello, my name is Xiao Chen, and I originally from China. I study right now psychology in Berlin at Humboldt University. And for me, photography is just, you always to be a sort of like a method to present my idea. And I use photography, whatever method I have. For example, I took photos with my analog camera and digital camera, just to sort of like open another way to embody my idea as a Chinese, but living in Berlin, and this kind of, which is also the theme of the exhibition today, to show people more about culture.
Zhou Qian, qui vient de Chine, étudiant en psychologie à Berlin. Et il pratique la photographie comme un outil, en fait, comme un outil méthodologique pour mettre en lumière ses idées, ses recherches, et on va dire examiner aussi les contrastes depuis la Chine jusqu'à Berlin, ouvrir en fait des portes de l'esprit. La photographie est avant tout un outil.
Alors, bonsoir tout le monde, moi c'est Florian Solin, je suis étudiant en audiovisuel à l'ESRA Paris. Alors pour moi, la photo, c'est surtout... en fait, c'est aussi un outil, mais un outil pour pouvoir explorer vraiment des choses formelles, c'est-à-dire les matières, les textures, les couleurs, les courbes, les formes, tout ce qui est vraiment purement visuel, en fait, et ce qui me permet aussi de pouvoir avancer dans les métiers que je veux faire, c'est-à-dire technicien au cinéma. Donc voilà, la photographie pour moi c'est vraiment un travail formel. Ça me permet aussi de faire des recherches dans l'espace numérique. Je travaille principalement en numérique et puis voilà, c'est ça en fait.
D'accord, merci beaucoup. Et j'avais aussi une autre question concernant plus particulièrement cette exposition. Pourriez-vous nous décrire la photo que vous aviez présentée au concours et nous dire comment pour vous elle se rapporte au thème? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette photo-là pour le thème vibration?
Another question we would like to ask you all is you present your works to candidate to be here now for the exhibition, and could you each of you tell us which photography you've been choosing in through your, all your works? We according to this theme, vibrations, and what were your motive, motto to show and express through one photo?
I work a lot with the topic of light, so it's a very direct translation of vibration in a way, how light would reflect off different surfaces. So it was pretty much the perfect topic to use a series of works and present them in this context. So yeah, my photographic work is mainly about light. So light and structure, texture, and exploring the materiality of it. So it fit pretty well.
Pour Martha Jurina, qui travaille essentiellement à partir de la lumière, le thème vibration correspondait tout à fait et rentrait parfaitement en résonance avec le travail sur la lumière et les structures, la matérialisation en fait de la lumière sur les structures qui sont, comme on le disait tout à l'heure, les surfaces des murs et de l'architecture.
Pour moi, ici dans l'exposition, on peut voir des images de deux personnes qui vivent dans le bois de Vincennes, près de Paris, ou vers le périphérique. Et pour moi, ce série de photos qui est plutôt documentaire, une documentaire de leur quotidien, ça passe avec le thème de vibration, parce que pour moi, c'était un peu un endroit de refuge vers le Paris stressant, la vibration de la ville en général. Et c'est toujours entre ces deux côtés, la côté qui, où il y a moins de bruit, qui est calme, la bois, et de l'autre côté, la ville, qui est la vibration. Et leur être sans abri, c'est un peu une conséquence de la vibration de la ville, qu'elle est dans ce sens-là très mal. Voilà.
So my work that I present here is the title is Resonance. So I think I'm come to like in German we say Ausreißer, because I come from China. Of course, I was, you know, sort of like grow up in traditional Chinese culture. I would put in that way, and after I came to Germany, I spent a lot of time, of course, at first learn the language. I mean, I study English literature when I studied in China, and read a lot of things, and then study German. And by because I can speak German, I read lots of books from Western Europe. You know, it's sort of like you know, this combination, and it was represented in my work. I chose respectively one photo from Beijing, where I grew up, and one photo from Berlin. So by presenting them together, I want to tell, sort of like send a message to people that, you know, there are other ways to interpret culture, you know, other than politics or labels, we say. You know, just maybe this way is more direct, you know, to get into culture, and we don't have any labels anymore, but rather direct into the culture and get into philosophy maybe. Thanks a lot.
Pour Jo Chen, qui présentait une œuvre qui s'appelle Résonance,
Il s'agissait en fait de rentrer en résonance aussi d'un lieu à l'autre. Joe, qui originellement vient de Pékin, Beijing, qui a pu recevoir une éducation traditionnelle, faisait des études en langue anglaise et en littérature, et arrivé à Berlin, a bien sûr commencé par étudier la langue, également la littérature, et son choix en fait pour établir les connexions entre ces deux cultures était une photo de Beijing et une photo de Berlin pour tenter aussi d'extraire tout contexte politique ou de labellisation de ces villes et de permettre des connexions en vision directe de ce qui était à voir par la photographie.
Alors moi je rejoins pas mal ce que Martha a pu dire. Mon travail c'est vraiment un travail formel sur la lumière et par conséquent aussi sur les couleurs. Quand on parle de vibration, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de travailler sur la propriété vraiment ondulatoire de la lumière, c'est-à-dire les propriétés de réflexion, la polarisation, la diffraction, qui permettent vraiment de mettre en évidence la lumière et de mettre en évidence des couleurs. Et c'est pour ça que je trouve que ça rejoint ce thème de vibration. Et puis, par conséquent aussi, en analysant justement ces propriétés sur les matières, sur différentes matières, trouver des couleurs qui sont particulières et qui peuvent devenir par elles-mêmes vibrantes en fait. Je pense qu'on peut dire d'une couleur qu'elle est vibrante et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce travail.
Merci beaucoup. Enfin, j'aurais une dernière question davantage sur l'après-exposition. Quels seraient vos projets dans le futur après cette exposition? Est-ce que vous pensez que ça va éventuellement vous ouvrir des portes, ou est-ce que vous avez déjà un projet précis en tête?
Do you have any further projects coming in the future after this exhibition, or is this exhibition and this focus gives you a new vision also about your work as photographers and also as students in your respective fields?
Well, I study fine art, so I will continue definitely, and photography has been pretty much the main medium for me, although using it in an experimental way, like drawing or like light painting. And it was great here to have this exchange, because it doesn't happen often to hear questions from people that don't study this and are not in the arts, and hear the questions of, for example, why do we do it? And it definitely made me think more about the project and helped. So I am continuing with photography, so let's see.
Et pour Martha, qui est donc étudiante en art visuel, la photographie est son médium principal. Donc bien sûr, elle souhaite continuer dans son travail et apprécie particulièrement la confrontation ici lors de l'exposition avec des personnes qui ne sont pas toujours sensibles à cet espace d'expression. Et aussi se poser la question pourquoi faire des photos, pourquoi continuer.
Pour moi, même si je fais la science politique, c'était toujours important de photographier. Et c'est aussi toujours lié à la science politique ou à le classique documentaire qui est aussi toujours lié à la société et la politique pour moi. Et bah, je continue avec des projets qui sont sûrement... pour moi, c'est un moyen pour peut-être changer, c'est un peu trop... mais au moins de rendre les choses un peu en avant, ça se dit comme ça. Et je continue, et là l'exposition c'était pour moi déjà c'était une possibilité d'avoir les impressions dans une qualité que j'ai jamais vue, et pour moi c'est d'avoir une public, c'est aussi d'avoir ici c'est... En fait, j'ai pris des photos des sans-abri, et ici c'est assez chic la vernissage, et c'est pour moi aussi un peu une sorte de réflexion pour moi-même. Je vais dire à Salomo et François qui sont sur les photos qu'ils devraient venir et regarder les photos, mais c'est aussi pour moi de confronter moi-même avec mes projets et leur sens en fait. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est seulement quelque chose pour moi, ou est-ce que c'est quelque chose de plus?
Voilà. Justement, Paul Lovis Wagner, j'ai une question pour vous. Vous dites, je cite dans le catalogue, j'essaye de briser les stigmates qui sont associés aux sans-abri, et je voudrais savoir comment vous y prenez avec votre photographie pour briser ces stigmates-là.
Déjà, d'entrer dans cet espace qui est assez privé, je dirais que c'est comme si je venais chez quelqu'un de vous et dans la maison et je documente le quotidien. C'est très privé et il faut avoir beaucoup de confiance. Et en plus, si on est obligé de vivre sur la rue, qui est forcément des gens qui sont obligés de vivre sur les rues parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Et pour moi, c'est soit il y a des documentaires souvent, il y a beaucoup des documentaires et qui travaillent avec l'alcool, voilà, et de stigmatiser les gens. Et sur mes photos, c'est un quotidien normal. Donc François, il se lève, il fait son café et il fait un rasage.
Il se rase.
Il rigole, il joue avec ses chats. C'est normal. J'ai pris des photos, même si c'est pas entre les 10 photos où il lit un livre. Et Salomon, il est sur son bicyclette. Et il y a des situations qui sont le quotidien, mais quand même un peu à côté du quotidien normal entre guillemets. Voilà.
So for me, of course, this exhibition sort of like a stimulus to, you know, to make me to go further in this area, and because I study psychology at Berlin, and there is a direction in psychology. It's probably very new, and there are lots of professors, researchers doing in this area. It's called empirical aesthetic. So using methods you learned in psychology, for example, statistic, you know, personality, to find the sort of like a over dimension to the definition, what do you think about beauty and why do you think these pictures are beautiful? And in a way that we analyze them using more mathematical way, you know, that's the basic idea, I think, in science or in psychology. And I think I would devote more effort in that area. And like I said, on the other part, I'm a Chinese and I grew up in this area, in this culture, and we have Han Buddhism, mm-hmm. and Taoism, and you know, every time, of course, in psychology, we learn lots of things about emotions and, you know, in a very Western way. But there are lots of theories as well, especially in Han Buddhism. It's more delicate. It's more interesting. So perhaps, I mean, I'm not so good. I'm still a beginner of my process here, studying in Berlin, in Germany. So perhaps I can find some combination of these two, like I showed in my photos. Thanks.
Okay, can you just reprecise? You said it's empirical aesthetics. Studies in this new field area.
It's called empirical aesthetic. Mm-hmm. Aesthetic is a beauty about, and I think there are one professor. It's Öslung from Sweden. He's a professor. He does a lot of studies about that, using mathematic ways, especially statistic, to analyze beauty. What are the dimensions of people? How people precising beauty, the perception.
Les études de Joe en psychologie à Berlin donc sont orientées vers la psychologie de l'esthétique empirical, like imperative. What does it mean, empirical?
Empirical, I think it's...
Ah, empirique, voilà. La psychologie esthétique empirique.
Empirisch, in German. Yeah.
Yes. Et donc, comment, au niveau de la science, on peut déterminer quels sont les facteurs, les critères esthétiques qui vont déterminer chez les uns, chez les autres, que ceci est beau ou pas, et plus ou moins esthétique, et les différents goûts, et ceci en relation avec les émotions des sujets, et en lien également avec les théoriciens du bouddhisme Han et du taoïsme, donc en Chine. Voilà, donc cette exposition pour Joe est un stimulus pour continuer à approfondir sa recherche à la fois en psychologie, mais bien entendu en photographie, et mettre en avant ses recherches.
Alors, pour moi, pareil, cette expo, c'est très motivant, très encourageant pour l'avenir. Ça donne envie de continuer. Et après, je dois dire que la photo, pour moi, ça reste un domaine de recherche extrêmement passionnant. Je n'en ferai pas mon métier, Voilà, ce que je veux faire, c'est vraiment technicien dans l'audiovisuel, dans l'image en mouvement. Mais vraiment, la photo m'a permis, me permet et me permettra par la suite vraiment d'explorer que ça soit des procédés optiques ou des procédés de post-production. Voilà, travailler dans cet espace numérique. Et je pense que voilà, j'espère pouvoir continuer, approfondir ces recherches et puis pouvoir m'en servir aussi en tant que médium qui pourra me faire avancer dans mon travail principal, tout simplement. Okay. J'ai pas l'intention d'arrêter la photo. Voilà.
Merci beaucoup. Comme on manque de temps, malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous poser d'autres questions. Thanks a lot for all of your answers, but we lack of time, so we can't continue. So, mais merci beaucoup pour toutes ces réponses très intéressantes et de nous avoir fait découvrir votre univers photographique très différent. C'était très intéressant. Merci.
C'était Tanzan Samba, un morceau du groupe Aether.
Vibration.
Vibration.
Vibration. Sur Radio Campus Paris 93.9.
Vous êtes donc sur Radio Campus Paris et dans le cadre de notre émission consacrée à l'exposition Paris-Berlin, Madeleine et Elia vont maintenant interroger certains jurés de cette édition.
Marie Tadei, vous êtes critique d'art et vous êtes membre du jury de cette édition 2015 du concours Paris-Berlin. Adèle Godefroy, vous êtes lauréat 2014 de Paris-Berlin. Donc merci à vous pour votre présence. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre expérience à chacune de l'art pour commencer,
la parole au plus jeune.
Adèle Godefroy.
Bonjour. Alors, moi, je suis étudiante. Là, je vais bientôt passer le CAPES de lettres. Donc, j'ai un rapport, je dirais, à l'art aussi qui passe par la transmission. Je fais de la photographie depuis maintenant 8 ans. Donc, c'est quand même... C'est pas mal par rapport à l'âge que j'ai. Je n'ai que 24 ans. Donc, j'essaie d'allier mon travail dans l'écriture avec l'image, en fait. Je me rends compte depuis quelques temps que je ne peux plus travailler sur un texte, par exemple, sans l'imager, en tout cas, dans ma tête. Et visuellement, si effectivement je traduis par exemple un texte en image dans ma pratique photographique. Voilà.
Je ne donnerai pas mon âge, il n'y a pas de raison. En revanche, mon rapport à l'art est celui de chacun d'entre nous. L'art est présent depuis pratiquement les premières minutes que nous vivons, puisque je suis très kantienne, donc l'art reste avant tout la belle représentation d'une chose, et il est visuel. Donc on le croise comme ça au travers de nos routes. Certains comme moi peuvent aussi en faire une profession. Je tiendrai juste une petite... Je ne suis pas critique d'art. Je sais que c'est ce qu'on a mis dans le catalogue. Je travaille au niveau de l'art. J'ai été galériste. Je suis aujourd'hui, entre autres, commissaire d'exposition. Mais pas critique d'art. Non pas que je n'ai pas un sens critique, mais je préfère analyser l'art et le raconter que le critiquer. Mais l'art, je crois, est toujours présent. Et la preuve en est, nous sommes tous assez nombreux aujourd'hui réunis pour découvrir des jeunes artistes. Et d'ailleurs, je tiens à souligner le travail assez exceptionnel du Crous, parce que le concours, c'est une chose, mais d'exposer pour les lauréats d'aujourd'hui ou les lauréats d'hier, comme c'est le cas de ma voisine, dans un lieu comme aujourd'hui au Concordia, c'est assez exceptionnel, parce qu'un travail, lorsque la photographie, c'est quelque chose que je connais bien pour la pratiquer moi-même, il faut se projeter. Et là, la projection est assez exceptionnelle. Donc j'invite ceux qui nous entendront à venir regarder, parce qu'il y a plus à voir qu'à en dire sur une œuvre d'art, quelle qu'elle soit.
Effectivement, je peux rebondir là-dessus. C'est l'année dernière, donc j'étais lauréate du concours. C'était la première fois que j'exposais. Et c'est un monde assez fermé, en fait. Enfin, quand on n'est pas dans ce monde-là au départ, on ne se dit pas comme ça, je vais pouvoir me mettre à exposer mes œuvres. Et une fois que la porte est ouverte, là, c'était la première porte, c'est vrai qu'on a un contact avec cette mise en exposition de ces images qui va durer, en fait. Et ça, c'était vraiment très, très fort et très beau, parce que les images exposées à Paris ensuite partent pour Berlin, et c'est vraiment une très belle expérience.
Merci. Pensez-vous que ce genre de concours propulse la carrière de ces jeunes artistes et étudiants?
En même temps, la réponse, vous venez de l'entendre. Maintenant, je vais parler d'une manière plus professionnelle, puisque je viens de le dire, j'ai été galériste et je suis encore commissaire d'exposition et encore un petit peu galériste à l'étranger. Je crois qu'une carrière... est-ce qu'on peut parler de carrière en matière d'art? Parce que dès qu'on commence à parler de carrière, on parle marché de l'art. Après, on parle cotation. C'est plein de mots comme ça qui font peur à tout le monde. Non, je pense que ce qui est important... C'est le fait d'être vu. Et quelle que soit sa pratique artistique, à part l'architecture, où là, il y a pas seulement être vu, il faut être habité souvent. Mais en revanche, voilà, qu'on peigne ou qu'on sculpte, on le fait d'abord pour soi. Et ensuite, à partir du moment où on va passer le relais, c'est pour être vu. Donc, ça propulse une carrière, je ne sais pas. Mais en revanche, d'avoir une lecture qui n'est plus la sienne ou des proches, c'est ça qui est énorme. Là, aujourd'hui, certains lauréats, par exemple, sont plus appréciés que d'autres, ce qui est tout à fait normal. Parce que justement, les jurys ont peut-être un œil un peu plus aguerri. Donc, nous avons pu sélectionner certains artistes en les projetant, justement, parce que notre expérience nous a permis de lire un peu plus que d'autres. Mais là, un des lauréats m'a dit tout à l'heure, au départ, c'était un petit peu difficile par rapport au public, et avec les questions, ça avançait. Voilà, parce que d'abord, on regarde, et ensuite, on découvre un petit peu plus, que ce soit via l'artiste, et c'est ça qui est merveilleux lors d'un vernissage, c'est que c'est l'artiste qui peut parler de son œuvre, et non pas un critique d'art ou un commissaire d'exposition. Et c'est ça que je trouve exceptionnel, encore une fois, ce concours, c'est pas un simple concours, c'est plus parce qu'il y a l'exposition. C'est mieux qu'un chèque, à mon avis. Bon, en même temps, le chèque, c'est très bien aussi pour les artistes.
Et en tant qu'exposant, on rebondit assez vite en fait sur les remarques qui nous ont été faites. Enfin, moi, je me souviendrai toujours qu'à Berlin, j'ai rencontré donc un jeune Berlinois qui m'avait dit que dans ma série photographique, effectivement, il n'y avait pas un portrait de face. Et qu'il sentait bien dans mon travail que c'était pas quelque chose que je maîtrisais nécessairement. Et effectivement, ça me fait assez peur de faire du portrait. Et c'est quelque chose qui me travaille depuis ce passage à Berlin et quelque chose que je vais travailler du coup et qui me fait énormément avancer dans mon parcours.
Et quelles ont été pour vous les suites de ce concours ?
Excusez-moi, je vais demander un petit peu plus de un peu d'éclaircissement sur la question. Qu'est-ce que vous entendez par les suites par rapport à nos propres nos propres retours ou pour les artistes?
C'est plus moi que ça concerne.
Je pense que
coup,
ça vous voilà. concernerait plus.
Je
vous.
Pense aussi.
Le retour de Berlin, déjà, Berlin a vraiment été une expérience saisissante parce que je n'étais jamais allée en Allemagne déjà. Et comme beaucoup de Français, j'ai des a priori qui sont nés de l'histoire, de ce qu'on a appris dans notre éducation et du reste. Et des a priori qu'il faut vraiment rapidement mettre de côté parce que cette ville qui était Berlin est exceptionnelle. Enfin, je m'attendais pas du tout à une ville aussi explosive, je dirais, autant en termes d'architecture que de couleurs, enfin, j'ai beaucoup d'images qui me reviennent là, mais voilà, pour moi ça a été une manière de me débarrasser aussi de beaucoup d'a priori, et j'ai gardé pas mal de contacts aussi de mon passage. Je me levais à 4h du matin pour faire du vélo et pour voir le mur de Berlin désert. Enfin, c'était vraiment une très très belle expérience.
D'accord. Bon, après avoir parlé plus de ce que ça apporter aux artistes, j'aimerais vous poser une question. Vous, en tant que jury, vous nous avez parlé, vous, de votre rapport de la photographie en rapport avec les lettres, et vous, d'une certaine perception kantienne de l'art. J'aimerais savoir quels ont été vos critères dans le choix des lauréats, sachant que vous nous avez dit à quel point c'était peut-être important de parler avec les artistes pour comprendre leurs œuvres. Comment, en tant que jury, vous avez choisi les lauréats alors que, justement, vous ne pouviez pas avoir de contact avec eux?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a œil aguerri et non aguerri. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il faille faire des études d'histoire de l'art pour comprendre une œuvre d'art. En revanche, parfois, il est plus facile de l'apprécier lorsqu'on en parle un petit peu. Picasso disait que pour comprendre un artiste, il fallait voir ses tableaux. Moi, je dis toujours l'inverse. C'est que pour comprendre une œuvre, il faut connaître l'artiste. Maintenant, on n'a pas non plus un besoin primordial de comprendre une œuvre pour l'apprécier. Comme je l'ai dit justement, puisque approche kantienne, elle est visuelle d'abord, et Maritine m'envoie quelques signaux jusqu'à mon cerveau qui fonctionne encore pour le moment. Maintenant, pour la sélection, moi par exemple, contrairement à certains qui étaient bien plus accroché au thème de la vibration. Moi, d'abord, ça a été très simple. Lorsque je vibrais, pour moi, le thème était... voilà, c'était rempli. Donc, c'est vrai que dans les trois, le trio de tête faisait partie de ma sélection finale. Je crois qu'il y en avait six que j'avais mis au-dessus du lot. Ça a été assez facile. Le thème étant, pour moi, mis de côté, c'était purement... voilà. En même temps, n'oublions pas que lorsque nous sélectionnons, nous n'avons pas la qualité de tirage qu'il y a aujourd'hui. Il s'agit de tirages certains, avec des tirages papier un petit peu plus élaborés, mais pour d'autres c'était presque de l'impression offset, donc il faut aussi lire un petit peu plus loin. Donc voilà, il y avait, c'était purement visuel. Après, il y avait délibération, parce que certains avaient besoin que ce soit un petit peu plus intellectuel. Donc il est vrai que nous sommes battus à certains moments. Heureusement que nous savions qu'il y avait du champagne et un déjeuner derrière, sinon je crois que ça aurait mal fini. Mais bon, il n'y a pas eu, et avant le repas, il n'y a pas eu échange de coups, mais pendant le repas, il y a eu échanges verbaux parfois.
Ouais, sachant que effectivement, moi, j'ai défendu corps et âme le thème parce que je pense en fait, avec du recul, que je l'ai défendu
à juste
parce
titre,
que j'avais
hein.
moi-même fait ce concours l'année d'avant et j'avais passé un temps fou à réfléchir à quelque chose qui réponde au thème parce que je considérais que effectivement le Crous a décidé de mettre un thème à ce concours, donc il faut aussi jouer le jeu. C'est aussi une contrainte, c'est une contrainte énorme parce que on a des super séries de photographies qu'on voudrait mettre, qu'on ne met pas parce que ça ne répond pas au thème, et donc on se garde de le faire. Donc voilà, pour moi c'était un critère assez important. Et donc, vis-à-vis de ma relation à l'écriture, moi, j'ai trouvé, pareil, à l'opposé, j'ai trouvé intéressant donc, de lire les productions écrites qui accompagnaient les photographies. Donc, il n'y en avait pas toujours, pas des conséquences.
Parfois, même on se demandait aussi
mais,
si c'était un texte.
Oui, parfois, on se demandait quoi en faire, mais voilà, j'essayais de ne pas m'en tenir à ce texte, de regarder les images d'abord et après de lire le texte, mais je lisais toujours le texte parce que ça me... Parce que je pense que j'ai ce rapport-là.
Non, mais en même temps, c'était bien parce que justement, chacun n'ayant pas la même lecture au départ, ça permettait... Bon, c'est vrai qu'à certains moments, en revanche, lorsque le thème était tellement présent, il n'y avait aucun travail, j'écartais avec les autres. Mais c'est vrai que dans certains cas, on me disait, oui, mais où est le thème ? Mais j'oubliais le thème parce qu'il y avait un... Il y avait quelque chose de tellement... La photographie n'est pas le premier art, hein, loin de là. Donc, il est purement visuel. Et surtout aujourd'hui, à l'heure de Photoshop et l'iPhone 25, qui va sortir, je crois, la semaine prochaine, où on peut déplacer les bateaux sur un port et d'être blonde en 2 secondes sans passer par le coiffeur. C'est important aussi de lire un petit peu plus loin que juste, voilà, j'ai suivi un thème. Donc, bien sûr, lorsque il y avait tellement de vibrations, mais tellement plus de photographies, là, non, ça marchait plus. Mais c'est vrai qu'au résultat, quand on voit les 6 lauréats d'aujourd'hui, il y a de la vibration à chaque fois. Et il y a quelque chose de très, très fort, parfois, qui plaît à tout le monde, d'autres moins. Mais en tout cas, je trouve que les 6 qui sont accrochés aujourd'hui au Concordia sont très, très parlant.
Et par exemple, le travail de Florian Solin qui a fait sa série donc, qui s'appelle Aura, il y a ces deux photos qui, la première courbe 1 et courbe 2. Il y a aussi la question de la série parce qu'effectivement, on a un thème, on a une série, donc il y a ce critère-là auquel j'avais pensé avant d'arriver aussi, c'était de se demander si les images entre elles se tenaient, mais pas forcément un lien qui est visible, je veux dire, mais une sorte de sensation qui fait que tout fait lien, quoi. Et donc ces deux images, courbe 1 et courbe 2, sont pour moi celles qui m'ont attaqué le plus dans mon regard, quitte à... Il y avait toutes les autres, mais c'est vraiment ces deux-là.
Il y a eu un peu bataille.
Il y a eu bataille, mais pour moi, c'était les deux plus fortes de la série. Et du coup, la série... oui, la série a été...
Non, mais pour parler, puisqu'on parle de spectre, parce que moi je notais ouais. quelque chose qui me restait, et là c'était spectre qui avait mes 6 croix. Et là, quand je l'ai vu exposé, j'étais très très contente d'avoir un petit peu bataillé avec certains pour qu'ils soient là, parce qu'il y avait le soleil, lorsque je suis arrivé, qui jouait sur les photographies. Donc le spectre, parce que c'est un gros travail sur la lumière, et là il y avait la lumière naturelle qui venait ajouter à ce jeu sur la lumière. Là, les vibrations, elles étaient plus... Donc, le thème qui était important était encore plus... Donc, j'étais très contente parce que le résultat avait dépassé toutes mes espérances. Mais je parle de lui, mais voilà, là, je vois que tu montres...
Non, je montrais juste la dernière, ça, juste pour terminer là-dessus.
C'est exceptionnel, ça.
C'est cette série, donc...
Le coup de cœur de tout le jury, pratiquement.
Unanime, dès le départ, en fait.
Ça, c'était unanime. Dorian, ça a été unanime.
Son sans-titre, là, où on est dans un espèce de décor...
Une morgue.
Oui, une morgue.
Pas peur des mots.
Avec une série de noir et blanc et deux couleurs qui sont...
Jéricho.
Oui. Du Jéricho pur, du Jéricho 21e siècle.
Voilà, donc celle-là était unanime aussi, par exemple.
Enfin, magnifique.
Vraiment. Et là, juste sur le thème, c'est un contre-thème. Elle a joué sur ce thème-là aussi, mais inversé. Qu'est-ce qui est vibration ? Ce qui est l'absence de vibration, la mort. Enfin, c'était très bien.
Mais ce qui est intéressant, puisque vous demandez comment... Ah, on a dépassé. Non,
allez-y.
Enfin bon, au cas où, on est une seconde. C'est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois artistes donc, sélectionnés par les Français, trois artistes sélectionnés par les Allemands. Et avec chacun leur talent, c'est très, très différent. Comme quoi la culture aussi joue énormément parce que le jury allemand a mis en avant ce que le jury français nous mettions de notre côté. Mais c'est pas du tout négatif, hein, il y a 40. Mais on n'a pas du tout la même approche. Et je trouve ça très, très intéressant, personnellement.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de répondre à nos questions. Et nous enchaînons tout de suite avec le blind test. Nous allons évaluer votre culture musicale. Je.
Gagnant, perdant.
Quiz.
Sur Radio Campus Paris 93.9.
Bonjour à tous.
Bonjour Louisiane.
Bonjour. Alors je viens ici pour vous présenter une petite chronique musicale. Je vous explique le concept. J'ai sélectionné deux groupes de musique allemand, donc pour coller fidèlement au thème. Je vais vous faire écouter des extraits de leurs morceaux et à vous de deviner qui c'est. Une fois que le mystère sera levé, ce sera l'occasion de vous en dire un peu plus sur l'artiste que vous avez découvert ou redécouvert. On va commencer par le premier groupe qui a une particularité assez extraordinaire car il ne chante qu'a cappella. Donc tout ce que vous allez entendre est exclusivement fait avec leurs 5 voix. Écoutez. Und ich frag mich, warum hat sie mich verlassen? Ich kann es echt nicht fassen, bis sie abgehauen. Verstehe alle die Funk. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous connaissez? Parce que c'est pas vraiment très connu.
Est-ce que c'est allemand, déjà?
Oui, c'est allemand. Ils chantent en allemand, ils chantent en anglais, ils chantent en français aussi.
Ils chantent en allemand, j'ai l'impression, mais ça me dit rien du tout comme mélodie.
En fait, il s'appelle Anders, c'est un groupe de 5 garçons, donc c'est des Allemands, effectivement. Il y a Johannes, il y a 2 Johannes, il y a un Markus, un Moritz et un Utemon, qui est japonais d'origine aussi. Tous ont apporté un peu leur culture dans le groupe. Par exemple, ils ont fait une chanson en japonais aussi, ils ont chanté en plusieurs langues. Le groupe a fait une grande tournée en Allemagne avec 23 dates à travers tous les pays. Ils ont des liens très forts avec la France puisqu'ils viennent souvent chanter dans des événements franco-allemands. Justement, j'ai pu les rencontrer lorsque j'étais au lycée. Ils sont venus faire un concert dans mon lycée. Malheureusement, ils ont ralenti beaucoup leur carrière parce qu'ils ne vivent pas du tout dans la même ville en raison de leurs études, donc c'est assez compliqué. Ils ne font plus de concerts, mais je vous conseille quand même d'aller écouter toutes leurs chansons. C'est vraiment... un des livres, je pense, pour les retrouver, ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube et SoundCloud. Et ils ont aussi un site, anders-band.de. Et justement, maintenant, il va être question d'un groupe qui ne s'est pas du tout séparé, mais qui, au contraire, après une pause de plusieurs années, est revenu sur le devant de la scène avec un nouvel album à la fin 2013. On écoute et on débrief juste après. Blind Test, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Rien du tout.
Rock'n'roll.
Eh ben oui, c'est Tokyo Hotel. Alors, pour petit rappel, Tokyo Hotel, ils ont commencé en 2001. Et Tokyo Hotel, avant, c'était ça. Et oui, ce groupe avec un chanteur mi-emo, mi-gothique, un bassiste grunge, un guitariste hip-hop qui émoustillait toutes les adolescentes. Entre 2005 et 2010, impossible de les rater, ils étaient partout, à la télé, à la radio, personne n'a échappé à la déferlante Tokyo Hotel. C'est un groupe...
Ils ont mué entre-temps.
Oui, effectivement. Effectivement, ça n'a plus aucun rapport. Donc on a les jumeaux, donc, et puis Georg et Gustav qui complètent le groupe. Ça a été un phénomène, donc je pense que vous en avez forcément entendu parler. 5 albums studio, 4 tournées, des arénas pleines à craquer, sold out, des fans qui campaient devant les salles. Enfin, c'était un peu de la folie. Et puis pendant 5 ans, depuis 2010, on n'a pas eu grand-chose, effectivement, un calme plat. Ils ont fait la version allemande de La Nouvelle Star, mais pas grand-chose, pas de chansons. Et finalement, la machine est repartie le 3 octobre 2014 parce qu'ils ont sorti leur nouvel album Kings of Suburbia, dont on a écouté un extrait. Et depuis, ils enchaînent les séances de dédicaces, les interviews, et sans oublier qu'ils ont fait leur grand retour en Europe le mois dernier avec une tournée baptisée Feel It All, de pas moins de 15 dates à travers toute l'Europe, dont 2 en France. Elle a débuté le 6 mars. Elle s'est achevée le 27, et à l'occasion de cette tournée, le groupe a montré une facette complètement différente de sa musique, donc c'est ce qu'on disait, apparemment ils ont mué, effectivement, mais leur musique a un peu changé avec eux. Une tournée qui a beaucoup misé sur le visuel, avec des costumes, des jeux de lumière. Ils sont complètement métamorphosés, excite la crinière de Bill et les dreadlocks de Tom, ce sont désormais des jeunes hommes de plus de 25 ans, et leur musique a grandi avec eux. Donc, si vous partez avec des préjugés sur Tokyo Hotel, vous pouvez peut-être essayer de vous en débarrasser et d'écouter un peu leur nouvel album, parce que tant les fans que les non-fans s'accordent à dire qu'il est extrêmement bien réussi. Et nous nous quittons, nous laissons le dernier mot à nos animatrices Anne Perrine et Kelly. Merci beaucoup à tous.
Alors le dernier mot sera uniquement le mien. On va quitter en cours de route.
Mais c'était pour une bonne raison. Au revoir Kelly. Ah, elle revient. Non ? Faux espoir ? Un dernier mot Kelly. Non ? Non ?
Merci à tous et puis à bientôt.
Cette émission se termine donc. Merci aux participants, merci à tous les auditeurs. Elle était réalisée par les membres de l'atelier radio du CROUS en partenariat avec Radio Campus Paris. Merci à Anne-Claire pour la régie et merci à tous. Au revoir.
Paris-Berlin.
Paris-Berlin.
Berlin-Paris.
Photographie.
Musique.
Art.
Artiste.
Vibration.
CROUS.
Cruise Time.
Culture.
Paris, Berlin.
Exposition.
Connexion.
Culture.
Cruise.
Métropole.
Dans ton Cruise.
Oh, génial, ça va.
Sur 93.9.